Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Campus 90.8. Je m'appelle Justine, je suis étudiante en histoire et j'ai la chance d'animer ce soir cette apérophonie afin de vous parler de la deuxième édition d'un festival qui est le festival Troupe ton genre et qui aura lieu à l'Arche sur le campus du domaine universitaire à Saint-Martin-d'Air la semaine prochaine du 9 au 13 mars. Ce soir, je suis en compagnie de trois invités, Naïma Germani, qui est professeure d'histoire à l'Arche, Joséphine Bourgeois, qui est étudiante en master de recherche en histoire, et Damien Fuchs, qui est étudiant en licence en histoire. Je vais vous laisser tous les trois vous présenter et nous dire chacun et chacune quel est votre rôle dans l'organisation du festival. On va commencer par Madame Naïma Germani.
Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, je suis en effet maîtresse de conférences à l'université. J'enseigne depuis 2012-2013 l'histoire du genre. Et mon travail dans ce festival, c'est surtout de la coordination. Donc voilà, j'essaie de coordonner toutes les actions, les propositions, etc. Tout au long de l'année jusqu'à l'aboutissement du festival.
D'accord, merci beaucoup. Damien.
Bonsoir, donc Damien Fuchs, 22 ans. Mon rôle cette année dans le festival, c'est d'organiser avec Alice Bonardi l'atelier sur les hommes face à MeToo, qui se tiendra le mardi 10 entre midi et 2.
Et bonsoir, je m'appelle Joséphine, j'ai 22 ans et je suis étudiante en recherche en histoire aussi. Et moi, j'ai particulièrement participé à l'organisation du festival l'année dernière.
D'accord.
Et notamment une collecte de protection périodique pour en avoir un accès libre et gratuit, notamment sur notre UFR de l'Arche.
D'accord, super. Donc le nom du festival, c'est donc Troupe ton genre. Beaucoup de personnes qui nous écoutent ont sûrement entendu parler du genre, mais c'est une notion qui reste encore assez compliquée à définir. Et le mot est parfois utilisé de la mauvaise manière. Naïma, est-ce que vous pourriez nous éclairer et nous expliquer un peu ce qu'est le genre et aussi pourquoi avoir choisi ce nom pour le festival ?
Oui, alors effectivement, c'est difficile de le résumer en quelques phrases. La notion de genre et d'études de genre est apparue dans les années 60-70 dans les universités surtout américaines. Mais au départ, la question du genre est apparue dans un contexte médical. C'est-à-dire que ce sont des médecins dans les années 50 qui étaient spécialisés dans les chirurgies pour les enfants, les bébés intersexes, c'est-à-dire qu'on appelait jadis hermaphrodites, donc qui avaient des organes génitaux qui était à mi-chemin entre des organes génitaux dits masculins et dits féminins, auxquels on imposait une chirurgie pour leur assigner un genre. Et ces médecins, et notamment John Money, ont montré qu'à partir du moment où on changeait leur sexe via une chirurgie, eh bien, ils adoptaient un certain nombre de comportements, un langage, etc., qui correspondaient à leur sexe assigné. Et donc, il a parlé de genre. Et le genre, c'est quoi ? C'est une construction, c'est une notion qui montre que les différences disons, on va dire homme-femme pour commencer, sont des constructions sociales, historiques, culturelles, et ne sont pas biologiquement innées. Voilà, c'est ça le genre. C'est de distinguer, le genre se distingue du sexe. Et explique que ce qu'on prétend être naturel, hein, comme être une femme, être un homme, etc., ce sont des constructions, en fait, historiquement constituées. Voilà.
D'accord. Très bien.
Alors, oui, pour Troupe ton genre, pourquoi le titre c'est une référence au livre de Judith Butler, qui est une philosophe américaine, qui, dans les années 90, a écrit un livre qui s'appelle « Troupe dans le genre », un livre qui a été traduit très tardivement en France, et qui a véritablement diffusé dans les sciences humaines et sociales cette notion de construction sociale du genre, et notamment dans le langage, et elle s'est surtout intéressée effectivement au moment où ce genre pouvait être perturbé, c'est-à-dire où ces assignations qui sont culturellement construites franchissent les frontières du genre. Donc elle s'est intéressée par exemple aux cultures queer, aux drag queens, etc., pour montrer comment ces personnes qui jouent sur le genre montrent à quel point ces assignations sont fabriquées, en fait, sont artificielles, et que donc on peut tout à fait changer de genre, franchir les frontières du genre. Donc ce livre a eu un retentissement énorme, et c'est en référence à ce livre que nous avons donné ce nom à ce festival.
D'accord. Et pourquoi, du coup, avoir choisi de créer ce festival et avoir choisi de traiter de ces questions de genre dans un festival plutôt que dans un cours, par exemple?
Alors, il existait déjà des cours à l'université. Moi, j'avais commencé avec ma collègue Clarisse Coulon de faire un cours sur l'histoire du genre à l'époque moderne, puisque c'est ma spécialité. Peu à peu, d'autres collègues ont proposé des cours d'histoire du genre en histoire antique, en histoire contemporaine. Mais en fait, c'est en discutant avec une étudiante qui faisait un master justement sur le transgenre à l'époque moderne qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire plus. C'est-à-dire qu'un cours ne suffisait pas et qu'il persistait, alors au sein de notre UFR, mais j'imagine partout, des préjugés, des stigmatisations, des discriminations de genre. Et on s'est posé la question toutes les deux, comment pourrait-on faire ? Comment essayer de sensibiliser un certain nombre, non seulement d'étudiants et d'étudiantes, mais évidemment d'enseignantes, parce que nous, enseignantes, nous souffrons aussi d'un certain type de discrimination, en tout cas dans nos carrières, dans la manière dont on s'adresse à nous, etc. Donc, que pouvait-on faire et comment essayer d'utiliser les savoirs que nous avions en vue d'une réflexion plus large, ouverte à un public aussi plus vaste que le public universitaire. Donc, c'est né un peu d'une indignation.
Et,
d'une...
voilà. Et du coup, Joséphine, je m'adresse à toi puisque tu es étudiante, tu fais ton master sur des questions d'histoire du genre et tu es aussi militante et tu fais part, il me semble, d'un collectif féministe, si je ne me trompe pas. Et est-ce que toi aussi, tu penses que ce genre d'événement a sa place dans le campus, à l'université? Est-ce que tu trouves que les questions de genre et de féminisme, elles sont assez traitées à l'université de manière générale?
Je pense que ça a tout à fait sa place, en fait. Enfin, à l'heure actuelle, faire des cours sur le genre, c'est encore trop du militantisme, en fait. Enfin, nos enseignantes qui font des cours sur le genre, c'est trop vu comme une matière où, en fait, que les personnes féminisées anciennes et qui n'est pas accessible à toutes et tous, en fait. Enfin, c'est pas la priorité des étudiants et des étudiantes, et c'est pas la priorité des enseignants. Du coup, je pense que créer des événements, en fait, spécifiques, dire cette semaine, on va parler de ça, c'est primordial. Et je pense qu'effectivement, ça fait bouger un peu les choses, en fait. Ça permet de créer un lien entre qu'est-ce qui est le militantisme, le féminisme sur le terrain, et en fait, d'où ça vient, créer des bases, en fait, historiques. Moi, j'ai l'impression que dans le féminisme, pendant trop longtemps, en fait, on a oublié ce qui s'est fait dans le passé. Et faire ce genre d'événement, c'est dire, OK, en fait, il s'est passé ça, on va en parler. Et maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et ça permet d'avoir des réflexions aussi scientifiques, en fait, sur la sociologie. Par exemple, une des conférences qu'on va avoir cette semaine, il me semble, c'est le genre et l'espace public. En fait, c'est nécessaire d'avoir ce genre de réflexions qui ne sont, du coup, plus seulement individuelles, de dire, OK, moi, quand je marche dans la rue, en fait, je ressens ça, mais de dire, en fait, là, on a des professeurs qui ont fait des recherches là-dessus, donc c'est scientifique, et en fait, voilà ce que les sciences nous montrent. Du coup, je pense que c'est super important, en fait, de réussir à travers ce genre d'événement à faire un lien entre ce qui est militant et qui n'est pas encore assez reconnu dans la société parce que c'est individuel, et en fait ce qui est scientifique parce qu'il y a des recherches qui sont faites là-dessus et universitaires, et mêler les deux ensemble.
Du coup, c'est un bon complément du militantisme et des actions militantes.
Je pense que tout à fait, effectivement, je pense que c'est pas suffisant ce genre d'événement, mais qu'en fait c'est un très bon début, en fait. Enfin, là on est à la deuxième édition, et en fait, il faut que ça continue. Le festival de l'année dernière, je le voyais vraiment comme une introduction, en fait. Enfin, d'ailleurs, notre premier atelier, c'était « Qu'est-ce que le féminisme ?» En fait, c'est une question super large. Et il y a eu quelques conflits, en fait, pendant cet atelier, parce que vraiment, c'est une question qui, en fait, juste dans la tête de certaines personnes. Et c'est assez intéressant de faire ça parce qu'on se rend compte, en fait, on sort de notre bulle militante. Et en fait, on se rend compte que, waouh, il y a des gens, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que le sexisme, que c'est le féminisme. Alors, notamment, évidemment, des personnes qui ne subissent pas le sexisme au quotidien. Mais du coup, je pense que c'est super important, en fait, de sortir de notre zone de confort du militantisme ou du monde universitaire et, en fait, de créer une confrontation entre les deux. Et parfois, c'est très compliqué parce qu'en fait, on se retrouve avec des situations oppressantes, en fait, pour certaines personnes, notamment l'année dernière quand il y a eu des réflexions hors propos qui n'avaient pas leur place ici, à mon avis. Mais c'est super important aussi de se rendre compte qu'en fait, ces réflexions existent encore et qu'en fait, il faut les déconstruire. Et après, la méthode, je ne sais pas laquelle c'est la mieux, mais c'est important de voir la réalité, en fait.
D'accord. Et justement, tu parlais de cet atelier l'année dernière donc, que tu as co-organisé. Et ça nous amène à penser aux impacts qu'ont eu le festival. Et du coup, je m'adresse à tous et à toutes. Quels ont pour vous été les impacts du festival? Et est-ce que vous avez vu un avant-après festival au final?
Alors, c'est une question compliquée. Bon, on peut se situer à plusieurs niveaux. Il me semble que globalement, première chose, le festival a été un grand succès. C'est-à-dire que moi, j'ai été très frappée. Enfin, nous avons toutes été très frappées, les organisatrices, parce que j'y avais principalement des femmes dans le comité d'organisation, par l'ampleur de la mobilisation. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les amphis étaient pleins, il y avait beaucoup de monde dans les ateliers. Effectivement, les débats ont été très vifs, mais en même temps est extrêmement intéressant. Donc déjà, je pense qu'il y a eu un grand succès de manière globale. L'autre impact, c'est qu'il me semble que ce festival a permis quand même, alors on en discutera ensemble, parce que a permis de faire émerger un peu une parole qui, jusqu'à présent, et me semble-t-il, n'était pas audible, ou pas, en tout cas pas visible. Il y a certaines personnes qui ont pris la parole dans des ateliers pour dénoncer certaines situations d'oppression, de harcèlement notamment. Et ça a correspondu au moment où, effectivement, l'université commençait à peine à mettre en place une cellule sur le harcèlement, mais avec, à mon sens, beaucoup de timidité. Donc ça nous a permis de renforcer cette demande auprès d'universités, de réclamer davantage de moyens et de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans une situation d'oppression, une oppression subie par une étudiante ou par une enseignante. Donc vraiment, il me semble qu'à un modeste niveau, il y a eu quand même une mise en mouvement d'une réflexion, et pas simplement auprès des personnes féministes ou concernés par ces questions, mais aussi auprès de collègues qui s'en tenaient assez éloignés, hein, je crois. Voilà, donc ça, pour moi, ça a été un des premiers impacts. Et sinon, Joséphine évoquera sans doute un autre aspect très important là-dessus.
Moi, si je peux me permettre,
oui, vas-y.
Je pense que là où ça a été super important, en fait, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, mais ça a permis d'enlever la question féministe seulement à quelques individus, en fait. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du bureau des étudiants de notre UFR. En fait, avant ce festival, il y avait genre 3 féministes, quoi. Et c'était les féministes, les meufs qui s'épilent pas, les meufs qui en fait, réclament des droits pour des trucs ridicules. Enfin, c'est même pas des droits, parce qu'en fait, c'est les meufs qui parlent de choses dont on n'a pas la perception, en fait. On comprend parce que c'est, par exemple, le harcèlement de rue. Et en fait, j'ai l'impression que ce festival, ça a permis d'amener des questions et de sortir de l'individualité de 3 personnes qui étaient, par exemple, notamment Justine, notamment moi, par exemple Mélanie, qui est l'étudiante qui est aussi, il me semble, à l'origine avec vous, Naïma, de la création de ce festival. Et en fait, nous, on était perçus comme limite les fémènes qui sont relous. Et en fait, ce festival, ça a permis de créer une autre dimension, en fait, à la question du féminisme. Pour ma part, c'est dommage parce que je trouve que c'est à l'échelle de notre UFR, mais c'est déjà un super bon début, en fait. Moi, je pense à l'exposition qu'on a eue l'année dernière de photos sur les règles, mais c'était l'espace, en fait.
Est-ce que tu peux rappeler ce que c'était?
Alors, en fait, l'année dernière, dans le hall de nos UFR, on a eu une exposition de culottes ensanglotées. Ce qui était super intéressant, c'était la dimension, c'était pas seulement des culottes, en fait, c'était aussi des slips, ce qui rappelle que, en fait, non, il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles, il y a aussi des hommes trans qui ont encore leurs règles, et c'est super important, en fait, de sortir du tabou sur ces questions-là. La question de la pilosité, en fait, il y avait aussi des règles avec des poils qui... Enfin, des culottes avec des poils qui sortaient. Et en fait, ça a choqué, et ça a permis de créer un débat, en fait, ça a permis de sortir du silence de la question de... des protections périodiques, la question de arrêter de chuchoter. Enfin, moi, j'ai vu la différence, par exemple, dans le BDE, où on arrêtait de chuchoter. Tu peux me passer un tampon, s'il te plaît? mais qu'en fait c'était ouais, où est-ce qu'elles sont rangées les serviettes s'il vous plaît, moi j'en ai besoin d'une là tout de suite, j'ai oublié que j'avais mes règles aujourd'hui. Et ça a permis en fait de changer la perception de le féminisme. En fait, c'était quelque chose de radical et c'était trois individus. En fait, là, en fait, on a plein de personnes du BTE qui font partie de l'organisation de ce festival. Et bien que c'est encore que à l'échelle de l'UFR de l'Arche, et encore que nous, on a, il me semble qu'on a un organisateur qui vient de l'École des Beaux-Arts. Et ça, c'est super, en fait, c'est que ça sort des frontières de l'Arche. Et enfin, moi, je trouve ça super important.
Oui. Mais après, pour peut-être pour modérer le propos, du point de vue de ce que j'ai pu voir, moi, du comportement d'amis, hommes, proches, bien qu'il y ait une meilleure acceptation des luttes féministes, il y a très peu de changements dans les comportements. Ça reste... enfin, c'est vrai qu'il y a moins de blagues sexistes au BDE. Je dis pas qu'il y en a plus.
Voilà.
Je dis que j'en entends moins. Enfin, moi, en tout cas, j'en entends moins. Après, effectivement, c'est pas moi qu'on va les faire. Oui. Non, ok, j'enchaîne. Mais après, bon, on a vu des comportements, notamment dans l'UFR, qui ont suivi le festival, qui n'étaient pas, pas acceptables. Et c'est bien que ça ait pu sensibiliser aux causes féministes, ça n'a pas forcément profondément changé les comportements, en tout cas de mes congénères masculins.
Au moins, je pense que l'avantage du festival, c'est que maintenant, quand il y a ce genre de comportement, j'ai l'impression que plus de personnes sont à même de réagir et ont aussi les notions théoriques un peu pour comprendre ce qui se passe et pour réagir aussi parfois. Et tu as parlé de l'exposition sur les règles et on avait mis en place une collecte de protection menstruelle comme c'était toi qui l'organisais, Joséphine. Tu en as parlé au début. Et ça aussi, ça a très bien marché et même, je ne sais pas si... C'est notre UFR qui a engrangé la machine, mais maintenant, il y en a aussi à la BU, il y en a un peu partout, donc c'est assez cool de voir que ça a eu des répercussions.
Je voulais rebondir sur ce que Damien disait, en fait. Effectivement, les comportements sexistes sont loin d'avoir disparu, et effectivement, il y a des blagues qui sont encore beaucoup trop présentes, et des comportements, en fait, tout court. Cependant, moi, ce que je voulais dire, c'est, effectivement, comme disait Justine, c'est, en fait, ça a permis de sortir de... Ok, bah là, je viens de me prendre une blague, c'est nul, quoi. Et juste, en fait, le renfermement, en fait, se sentir isolé. Et en fait, tout à fait, l'étudiante qui est venue et qui a dénoncé, en fait, des comportements... Alors là, pour le coup, c'était pas forcément du harcèlement sexuel, c'était juste du harcèlement parce qu'en fait, elle a parlé du festival et en fait, on l'a insultée et on l'a shamée sur les réseaux sociaux parce que, en fait, parler du festival, c'était un comportement féministe. A priori, les gens n'aiment pas les féministes. En fait, à travers ce festival et à travers cet atelier où elle a pu se confier, en fait, moi, j'ai l'impression qu'elle est sortie de l'isolement, en fait, d'être toute seule et de se battre toute seule face à ses comportements. En fait, effectivement, ces comportements, ils existent encore. Et en fait, je pense qu'on peut parler, on peut penser aux mêmes camarades masculins qui, en fait, vont continuer à dire « Ah, mais c'était dégueulasse, cette exposition. Moi, je veux pas qu'il y ait de nouveau ça. Et je veux pas que le BDE s'implique dans cette exposition sur les règles. » Mais le fait est qu'en fait, il y a eu un débat. Et le débat n'était plus seulement mené par Justine, par Mélanie ou par moi. Il était mené par beaucoup plus de personnes, en fait, qui se sont dit, bah, en fait, je ne suis pas toute seule. Et en fait, ce que je pense, ce n'est pas seulement une réflexion radicale, c'est une réflexion théorique que mes profs pensent aussi et tout. Et en fait, moi, juste, je finirai là-dessus, mais je pense que ce festival était super important parce que ça a permis de créer des liens aussi entre les enseignantes et entre les étudiantes. En fait, moi, je suis ravie maintenant de pouvoir discuter avec mes profs de waouh, par exemple, d'autres enseignants, en fait, qui ont des comportements totalement déplacés, en fait, et de pouvoir voir en ces organisatrices du festival des personnes de confiance vers qui je peux me tourner et dire en fait, là, j'ai un problème, comment je fais? Et inversement, en fait, quand des enseignantes voient des étudiantes en difficulté, peuvent venir voir les étudiants et les étudiantes, surtout, qui ont participé à l'organisation de ce festival et dire, là, en fait, on a une difficulté, comment on règle ça ensemble? Et du coup, moi, je trouve que c'est... Enfin, en fait, c'est... Alors, peut-être que je parle trop du prisme militant, en tout cas, je suis désolée, mais je trouve que c'est comme ça, en fait, qu'on recrée des forces, en fait, et qu'on réussit à mener un combat important dans la fac.
Oui, si je peux ajouter quelque chose, à l'inverse, enfin, moi, ce qui m'a... C'est très important d'insister, effectivement. Pour nous, c'était essentiel de ne pas rester cantonné à la sphère universitaire, mais de faire venir des gens de l'extérieur, et notamment des associations militantes. Et en tout cas, pour moi, mais je pense que je peux parler au nom de mes collègues, parce qu'on bon, on a un petit trio, donc c'est Marlène Jouan, Laura Péot, ça, c'est vraiment le comité serré d'organisation, avec des enseignantes qui sont intéressées, qui nous aident, qui nous donnent un petit coup de main, etc. En tout cas, pour ma part, j'ai... accentuée. Enfin, je sais que ça m'a permis, par exemple, d'aller vers d'autres lectures. Je pense notamment à un des co-organisateurs et participants à la première conférence sur le genre et l'espace public, donc Alix Cerezal-Orellana, qui nous a vraiment poussé, et ça, j'ai trouvé ça génial, parce que je le garde aussi pour l'année prochaine, qui a mis en évidence, par exemple, l'absence ou le déni hein, de la présence de chercheurs et chercheuses trans au sein de l'université, et du transféminisme, ou simplement de la question transgenre au sein de l'université, et qu'il fallait aussi aller dans ce sens-là. Donc vraiment, voilà, c'est pas une question que j'ignorais, parce que j'avais commencé à travailler là-dessus, mais c'est essentiel aussi pour nous. C'est-à-dire que la question militante nourrit aussi nos réflexions universitaires. Ça veut pas dire qu'on va faire de la recherche militante, mais en tout cas, se dire, là, il y a un impensé. Là, il y a un angle mort dans la recherche et c'est pas normal. Et voilà, donc c'est aussi, je trouve, ça sert à ça aussi ce type de festival qui nous permet de faire rencontrer le monde militant et le monde de la recherche et les étudiants. Et voilà. Donc c'est. Je voulais juste ajouter là. Ça, pardon.
Après, pour revenir rapidement sur la question des hommes par rapport au festival, ce qui est à saluer aussi cette année, c'est la participation d'enseignants chercheurs hommes à l'organisation, enfin, pas forcément du festival, mais en tout cas, participation à l'atelier. Les hommes face à MeToo, alors que l'année dernière, j'étais le seul homme cis à participer à l'organisation du festival. Donc il y a quand même un mieux sur la question, sur le comportement, sur les comportements masculins à l'université.
Oui, et puis je me souviens, l'année dernière, justement, on avait mobilisé tout le bureau des étudiants pour la collecte des protections menstruelles. Et au final, beaucoup d'étudiants s'étaient prêtés au jeu, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu frileux et qu'on avait dû leur faire beaucoup de pédagogie sur qu'est-ce que c'est les règles, comment en parler, et beaucoup étaient un peu gênés de parler de ça avec des étudiantes parce qu'ils savaient pas comment se positionner, et c'était intéressant. Et Damien, du coup, toi, cette année, tu t'impliques beaucoup plus dans l'organisation du festival. Et pourquoi tu as fait ce choix de... Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer?
En fait, l'année dernière, je m'étais impliqué pas dans le festival en lui-même, mais plus dans l'organisation de la récolte des protections hygiéniques, notamment en participant à la rédaction du livret sur la sensibilisation, sur les protections. Mais je m'étais pas trop impliqué dans le festival parce qu'en fait, je reste sur une position... Je ne sais pas si c'est la position la plus adéquate, mais c'est celle que j'ai, en tout cas, sur une position d'allié qui est de dire « je suis là s'il y a besoin de moi, mais si les ateliers peuvent être organisés par des femmes, je trouve que c'est quelque chose de préférable. » Donc là, vu que c'est un atelier qui vise les hommes, on m'a demandé de l'animer et de le préparer. Donc je l'accepte malgré les difficultés aussi qu'il peut présenter. Je pense que ce sera un atelier qui peut rapidement déraper. Donc, notamment, c'est pour ça qu'on l'a préparé avec des profs masculins, déjà pour être sûr d'avoir une présence masculine aux ateliers, premièrement, et puis de manière à limiter des propos qui pourraient être problématiques. Voilà, si j'ai bien répondu à la question.
Oui, super. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Kid de Eddie de Préto, et on se retrouve juste après.
Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton t'impale se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à terre et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
On est toujours sur Radio Campus 90.8 et ce soir, on parle du festival Trouble ton genre qui aura lieu à l'Arche sur le campus universitaire du 9 au 13 mars. On vient d'écouter Kid de Eddy de Preto, une très belle musique qui déconstruit un peu toutes les injonctions au virilisme et à la masculinité. Et c'est une chanson qui fait directement écho avec l'atelier que tu organises, Damien, qui s'appelle donc La réaction des hommes face à MeToo, il me semble.
Les hommes face à MeToo, exactement.
Pardon. Si tu peux nous en dire un peu plus sur comment va se dérouler l'atelier et surtout de quoi il va traiter.
Donc cet atelier va traiter donc de la position des hommes face à MeToo. Donc pour l'organiser, on a réuni un panel extrêmement divers de profs universitaires blancs de 35 à 50 ans. On aurait pu avec Alice peut-être organiser cet atelier avec des étudiants, mais on voulait pas se surcharger, d'autant plus avec la semaine d'interruption pédagogique et de partiel qui est en ce moment. Donc, au vu de la diversité de notre panel, la première question qu'on va traiter, ça sera quelle légitimité on a pour parler du mouvement MeToo déjà.
D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le mouvement MeToo au cas où certaines personnes ne savent pas
Alors, j'ai plus les dates en tête. Si je me rappelle bien, ça a commencé en 2015 avec...
17. Non,
17
ouais.
17, excusez-moi. Donc 2017 avec l'affaire Weinstein qui vient, dont le procès s'est terminé la semaine prochaine et il a été la semaine dernière, excusez-moi, et il a été justement condamné. Donc ce mouvement appelait les femmes à témoigner des violences sexuelles et des harcèlements qu'elles subissent. Donc ça a dévoilé c'était des choses qu'on savait déjà avant, mais ça a mis sur le devant de la scène que le patriarcat, concrètement. Et on a vu notamment beaucoup d'hommes réagir soit passivement dans ce qu'on pourrait appeler une surdité, comme l'a dit Madame Germani dans la préparation des ateliers, soit dans ce qu'on pourrait appeler des mouvements masculinistes, donc des mouvements conservateurs contre l'émancipation des femmes. Donc dans l'actualité, récemment, suite au César de Polanski, on a vu dans le même processus le hashtag « Je suis victime » qui est apparu sur Twitter après le lendemain des Césars, si je me rappelle bien, qui a le même objectif que le mouvement MeToo, puisque malheureusement, le patriarcat existe toujours et les femmes subissent toujours des violences sexistes de manière régulière.
Très bien. Donc du coup, excuse-moi, je t'ai coupé du coup sur ta présentation d'atelier, mais tu me disais donc que tu as réuni un important panel
de 4 personnes. Donc voilà, donc la première partie portera sur comment nous on se positionne, en tout cas déjà la position, parce que ça sera moi, je animerai l'atelier, donc je ne participerai pas au débat, mais ça sera comment eux se positionnent par rapport au mouvement MeToo, et comment aussi, parce qu'ils sont autant chercheurs que hommes, donc comment cette position sera tenue pendant l'atelier, que tout soit bien clair pour la suite du déroulé. Ensuite, nous parlerons des questions de MeToo à l'université et des résistances que subit MeToo à l'université particulièrement, parce qu'il n'a pas vraiment pénétré, en tout cas en France, il ne pénètre que très difficilement les milieux universitaires, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple, quand Joséphine parlait d'aborder les questions de genre en cours. Et enfin, nous parlons des surdités et des résistances des hommes face à MeToo. Donc les résistances, comme on a dit, qui sont les mouvements masculinistes, et les surdités qui peuvent aller de simplement se cacher ce fait-là, comme par exemple, on en parlait encore une fois avec Madame Germani dans la préparation des ateliers, même en tant qu'allié, des fois il y a des sujets qu'on ne va pas vouloir aborder parce qu'on ne sait pas comment se positionner. On ne sait pas se dire, oui, mais est-ce que moi je peux demander à une personne si elle subit du harcèlement, ou est-ce que ça ne va pas être dur d'en parler, ou des choses comme ça. Voilà. Et normalement, ça devrait occuper les deux heures.
Très bien. Et est-ce que tu as des attentes ou même des craintes par rapport à cet atelier?
Surtout des craintes.
Ouais.
Déjà, moi, une des choses que je considérais comme un échec pour atelier, c'est s'il n'y a que les quatre hommes profs qui ont été invités à l'atelier, qui sont présents en tant qu'hommes. Parce que l'année dernière, les ateliers avaient quand même un public... Enfin, le festival, de manière générale, avait un public majoritairement féminin.
Ouais.
On peut espérer, cette année, avoir un public un peu plus diversifié. Et l'autre chose, ça sera la gestion de tout ce qui peut être propos chauds ou problématiques, qui me fait un peu peur, notamment par rapport à l'atelier « Qu'est-ce qu'est le féminisme ?» l'année dernière, qui a été un peu agité, donc j'étais pas présent, donc je pouvais pas être là, malheureusement. Donc voilà. Après, les attentes, j'espère... c'est un peu compliqué comme positionnement, parce que il y a le côté... En tant qu'homme, on sait qu'on a eu des comportements problématiques et on essaye de ne pas les reproduire, mais d'un côté, on ne va pas les assumer comme ça dans l'atelier en disant « avant j'étais comme ça, maintenant je ne le fais plus
oui. ».
Donc c'est un positionnement compliqué. On va essayer d'aborder ça plus dans du prisme... D'un côté, on ne veut pas trop aborder ça du côté du prisme universitaire.
Mm.
De l'autre, c'est compliqué parce que ce sont des profs universitaires qui vont être présents. Donc, c'est un atelier compliqué.
Oui.
Compliqué.
Mais en tout cas, ça s'annonce très, très intéressant. Et j'imagine que toi aussi, ça a dû t'apporter un peu sur le plan de la réflexion personnelle, l'organisation de cet atelier.
Oui, notamment sur le rôle à prendre dans les luttes féministes et sur... pas tant sur mes comportements, parce que j'ai la chance, notamment via le festival, que quand ça m'arrive encore d'avoir des comportements un peu limites, des militantes viennent me corriger et j'accepte. Je pense que ce qui est important en tant qu'homme dans ce positionnement, c'est pas le prendre pour soi, c'est pas se dire ça fait de moi un être horrible, c'est de se dire c'est pas s'excuser pour autant, c'est se dire c'est systémique, donc on peut jamais être complètement déconstruit. Donc c'est écouter les militantes pour se corriger et ne pas reproduire les erreurs qu'on peut commettre. Et aussi, dans la lutte, par exemple, ce que me rapportait le festival, par exemple, c'est avant, j'osais pas trop forcément venir aux marches du 8 mars ou au Pride ou aux choses comme ça, et j'en ai discuté avec les militantes. Donc je pense que cette année, je serai présent à la marche du 8 mars, parce qu'on me dit que l'important, c'est de massifier les mouvements. Donc c'est ce genre de choses que m'a apporté le festival et la préparation de cet atelier.
Très bien. On va peut-être revenir sur la programmation du festival cette année. Est-ce que, Naïma, vous pourriez nous faire un petit récapitulatif des ateliers qui va y avoir, des conférences?
Oui, alors, depuis l'année dernière, le festival a choisi de se répartir en deux temps, vers midi, des ateliers et le soir, des conférences. Donc, on a quatre ateliers, quatre conférences. Un atelier d'ouverture, qu'est-ce que le genre? Ensuite, le mardi, les hommes face à MeToo, très attendu. Donc. Le mercredi, un atelier sur l'autodéfense avec une association qui s'appelle Ancrage Autodéfense, donc un atelier beaucoup plus physique. Et enfin, dernier atelier également très important, qui sera plutôt une projection d'un film transféministe qui s'appelle Free Sissy, et qui sera présenté par Alix Cérezal Orellana, que j'ai déjà cité. Alors, pour les conférences, on a plutôt deux conférences et puis deux autres événements qui diffèrent un peu du genre de la conférence. Donc, une conférence qui s'appelle donc Genre et espace public au pluriel, qui est surtout animée par des géographes, spécialistes donc des géographies genrées, notamment dans la ville par exemple, donc Marion Thius et Sophie Lurgan, et de manière extrêmement intéressante donc Alix Cérezal Orellana, qui est un étudiant à l'École supérieure d'art de Grenoble et qui réfléchit dans ses pratiques artistiques à la question justement des espaces genrés et notamment de la transidentité. Donc, c'est quelqu'un qui, comme ça, est un lieu entre effectivement le monde universitaire et le monde artistique. Deuxième conférence qui clôt l'ensemble, c'est une conférence sur la contraception avec Claire Grinot et Lisa Carayon, qui est, ainsi qu'une personne du CHU, Marie Sicot. Et entre les deux, on a deux événements qui ne sont pas des conférences. La projection d'un film, Womanhood, donc être femme, Révolution, génération, espace public, qui a été tourné en Égypte et qui est un film avec une construction, un web documentaire interactif. Et puis le mercredi, encore autre chose, une masterclass avec Victoire Toyon, qui est une podcasteuse spécialiste des masculinités, hein, qui a créé ce podcast important Les couilles sur la table, que pour ma part je suis très assidûment, et qui vient aussi présenter son livre, qui porte le même nom que son émission, hein, Les couilles sur la table, donc mercredi 11 mars à 18h à la Maison des langues et de la culture, salle Jacques Cartier.
Très bien. Et ce programme, pour rappel, est disponible sur le site internet du festival, qui est le site trouble-ton-genre.fr, qui a été fait par Mathilde Osterno, qu'on remercie. Moi, pour ma part, j'anime le premier atelier du festival, qui est l'abécédaire du genre. Il aura lieu le lundi de midi à 14h en salle TD1 à l'Arche. Et dans cet atelier, on va essayer de définir en fait tous les mots qui ont trait au genre, aux sexualités, et aussi des mots qui sont employés dans le vocabulaire féministe. Et on va essayer de les définir ensemble dans une ambiance très pédagogique et très ouverte, sans clichés et surtout sans attente, en fait, sans pression, voilà, de la part des organisateurs. Et si des personnes ne savent pas forcément définir des mots, ce sera vraiment très pédagogique. Et il va y aussi avoir une exposition qui est organisée par le bureau des étudiants et qui aura lieu toute la semaine et qui va dénoncer le harcèlement dans l'espace public, et qui a été faite en collaboration avec le bureau des étudiants et avec des étudiants et étudiantes qui ont été invités à témoigner sur des cas de harcèlement. Et donc, que je vous invite à aller voir à l'Arche toute la semaine. Maintenant, je vais vous demander peut-être quelles sont vos attentes à tous par rapport au festival de cette année. Est-ce qu'il y a des attentes particulières par rapport à l'année dernière?
Comme je l'ai dit, ça serait qu'il y ait un public masculin un petit peu plus large et aussi plus respectueux, parce que l'année dernière il y avait peu d'hommes, mais il y a eu dans les conférences que j'ai vues, il y avait beaucoup de mansplaining quand même, notamment sur j'ai plus le titre exact de la conférence, mais c'était sur la position du chercheuse ou de la chercheure par rapport aux questions de genre ou de domination de manière générale. Je me rappelle d'un intervenant qui avait voulu expliquer à Marlène Jouan qu'elle n'avait pas bien compris les thèses de Bourdieu. Après, non, j'attends de voir aussi par rapport à mon atelier ce que ça pourra donner, forcément. Et pour moi, ça, je vais pas monopoliser la parole.
Tout à fait comme Damien, j'aimerais bien qu'il y ait plus de participation masculine. Et effectivement, sans des propos sexistes et racistes, ce serait mieux. Mais je Enfin, je pense que c'est une deuxième édition, donc j'espère qu'on aura aussi plus de monde. En fait, l'année dernière, ce qui avait fait beaucoup de monde, c'était, on avait notamment la question sur qu'est-ce que le féminisme, avec des invités qui étaient... alors qui allaient défendre ce qui s'appelle le féminisme blanc. Et du coup, ça avait fait venir beaucoup de militantes actives et actifs. Et notamment la conférence sur... alors, j'ai plus les termes du tout exacts, mais sur la prostitution et oui, la transidentité.
C'était... Comment ? Non, c'était enquêter sur la prostitution.
Voilà. Ouais. Et oui, mais il y avait une question de transidentité.
Oui, sur la prostitution trans.
Et, ouais. Et du coup, ça avait fait venir beaucoup de militants et militantes un peu déter et un peu vénère, parce que justement, en fait, la question de, ok, dans quelle mesure est-ce que on peut parler de quelque chose qui ne nous concerne pas, en fait, faire des recherches sur quelque chose qui ne nous concerne pas. Et en fait, ce qui avait été vraiment intéressant l'année dernière, et j'espère que ça sera le cas cette année aussi, c'est le recul, en fait, des enseignants et chercheurs qui participent à ces ateliers et à ces conférences, en disant, Monsieur Geoffroy, en fait, était venu, avait fait une conférence et avait dit, en fait, voilà, moi, au départ, je voulais faire ma thèse sur les questions de prostitution, travailleurs et travailleuses du sexe et la transidentité. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un métier, enfin, c'était une recherche très difficile parce qu'en fait, il est blanc, c'est un homme cis qui n'est pas forcément concerné par ce travail, et enfin, je pense sans vouloir m'avancer, mais et du coup, ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'il est, il peut parler de ça. Et en fait, il y avait beaucoup de militants et militantes qui étaient venus, et des travailleurs et des travailleuses du sexe, et des personnes trans qui étaient venues et qui avaient dit en fait, là, gros, tu vas parler d'un sujet, tu n'as pas le droit d'en parler en fait. Et en fait, ces personnes avaient été très satisfaites de son intervention en disant bah voilà, en fait, c'est ça qu'on attend aussi, c'est. Moi, je pense que c'est... Alors, je vais parler en mon nom et pas en nom de ces militants, mais je pense que c'est super intéressant. En fait, la posture d'allié, c'est une posture qui dans laquelle certaines personnes se complaient très, très bien, en fait. Et sont très contentes, en fait, de dire bah, « Je suis un allié, je peux pas faire la recherche sur le féminisme. » En fait, moi, je pense que c'est super primordial, en fait, que les universitaires apprennent que, en fait, il faut travailler sur tout, parce qu'en fait, il y a plein de sujets qui sont super intéressants, qui sont primordiaux de travailler. Maintenant, voilà, faut avoir conscience qu'effectivement, en fait, quand tu vas parler, par exemple, de viol et d'agression sexuelle, bah, faut avoir conscience que, en fait, 90% des cas, en tout cas, recensés et ressortis auprès des commissariats de police, mais même recensés juste en règle générale, ce sont des personnes féminisées, en fait, qui sont concernées. Et du coup, ça fait pas que, en fait, la libération des femmes et des personnes minorisées de genre, moi, je pense pas qu'elle doit se faire en non-mixité et que entre femmes et personnes minorisées de genre. Je pense que les hommes, en fait, doivent nous aider dans cette lutte, mais juste tout en ayant conscience en fait, ce sont des hommes et qui sont pas concernés et que parfois la parole doit avoir place pour les femmes, mais qu'en fait les combats au quotidien, en fait l'organisation d'un festival qui est en fait super lourd, moi je suis pas sûre que ce soit systématiquement chouette que le comité restreint d'organisation ce soit que des femmes en fait, parce que c'est des tâches très très lourdes qui sont très compliquées, qui vous prennent énormément de temps, et en fait c'est pas normal que ce soit madame Péo, madame Jouan et madame Carmani qui en fait bah, pendant l'organisation de ce festival en fait ne passent pas autant de temps sur leur recherche en fait, et ça c'est une réflexion très militante que j'ai là, mais en fait c'est le partage des tâches, c'est dire bah tout en ne prenant pas trop de place et tout en ne faisant pas que des conférences et des ateliers sur les hommes et la masculinité, la vérité. Mais en fait, les hommes doivent participer à ça et doivent participer à la prise de contact en fait, des intervenants et intervenantes qui sont conviés à par exemple, contacter... on est en partenariat. Alors, il faut que vous me disiez si je me trompe, mais on est en partenariat avec, par exemple, la TAG ou... non, si on...
La librairie des modernes.
Oui, mais ouais, en fait, on a plein de partenaires pour diffuser, faire de la communication sur notre événement. Mmh. En fait, par exemple, ça, c'est des tâches que les hommes peuvent prendre aussi, en fait, et c'est des tâches bêtes, méchantes, mais qui sont redondantes et qui prennent beaucoup de temps, j'imagine, pour les chercheuses. Et du coup, moi, j'espère qu'effectivement, ce festival, c'est la deuxième édition et que ça va permettre aux hommes de comprendre, en fait, que c'est une tâche qu'on a tous et toutes besoin de prendre, en fait. Et du coup, ça va passer par l'investissement en fait des hommes cisgenres, donc les personnes qui se considèrent appartenir au genre qu'on les a désignés à la naissance. Et ben en fait, leur participation au festival, j'espère que l'année prochaine, en fait, ça fera qu'ils participeront encore plus à l'organisation du festival.
Oui, alors moi, j'ai peu de choses à ajouter parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Joséphine. Mon regret l'année dernière, ça avait été de voir si peu de... Alors, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'étudiants que d'enseignants. Et donc, il n'y avait quasiment pas d'enseignants qui sont venus. Donc, un désintérêt, une indifférence ou un refus, je ne sais pas. Je l'ai pas interprété. Très peu de retours aussi, si ce n'est quelques échos outrés sur l'exposition pilote ensanglantée. Bon, et donc voilà, moi c'est vraiment ce que je regrette, et ce que je regrette ça du point de vue universitaire, mais en général, c'est-à-dire que je déplore un manque d'écoute, un désintérêt, où je n'arrive pas, c'est pour ça que je suis très heureuse qu'il y ait cet atelier, parce que j'aimerais poser cette question. Cette indifférence des hommes qui ne se sentent pas concernés, qui ne veulent pas se sentir concernés par ces questions qui pourtant les concernent en premier chef. Enfin, c'est vraiment ces deux dont il s'agit. Donc j'espère effectivement qu'il y aura un élargissement du public et notamment du public masculin. Et l'idée presque d'une... Ce que je souhaite aussi à travers ce festival, ce que nous souhaitons, je crois, presque une banalisation. C'est que ces questions deviennent tellement communes qu'elles finissent par devenir vraiment audibles. Et je crois que ça commence. C'est-à-dire qu'il y a quand même des termes, des concepts qui commencent vraiment à rentrer dans la parole commune, dans le langage commun, il me semble. Mais voilà, donc c'est ce que j'espère, ce que j'attends de ce festival. Et j'espère aussi qu'il y aura une troisième édition. Et effectivement, ça serait très bien qu'il y ait davantage d'hommes qui soient associés à l'organisation de ce festival.
Et j'espère qu'il y aura une troisième édition aussi. Donc pour rappel, le festival aura lieu du 9 au 13 mars à l'Arche. Et vous avez toute la programmation disponible sur le site du festival trouble-ton-genre.fr. Il y a aussi une grosse communication sur Facebook qui a été faite. Donc vous pourrez retrouver tous les événements. Et pour finir, je vais te demander, Joséphine, comme tu es engagée dans le militantisme, de nous parler un peu de ce qui va se faire pour le 8 mars. Et aussi, il me semble qu'il va y avoir quelque chose lundi midi en même temps que le festival, mais si tu veux en parler.
Alors, cette année, c'est un peu particulier parce que le 8 mars tombe un dimanche. Donc du coup, il y a un peu une peur des organisateurs et organisatrices qu'en fait, il y ait peu de monde. Moi, je pense que les questions du féminisme et des droits des femmes et des personnes minorisées de genre est suffisamment important pour que les personnes se mobilisent également le dimanche. Donc du coup, là, cette année, ce qui va se passer, c'est rendez-vous à 14h avec nos plus belles pancartes, à 14h à l'hôpital de la maternité, il me semble, donc celui qui se trouve à l'arrêt avant Hilvert.
Oui, Michalon, il me semble.
Exactement, voilà.
Non. Oh non, oula, oula.
Non, non, l'arrêt après, avant Hilvert, désolée, mais vous pouvez trouver également toutes les informations sur tous les syndicats habituels, Nous Tous, ou CGT Isère, vous pourrez trouver ces informations sur Facebook. Donc en fait, il y a un rendez-vous à 14h avec une manifestation, avec des chants revendicatifs, je l'espère. L'idée cette année, c'est de faire le lien aussi avec la réforme des retraites. En fait, il y a une mobilisation depuis maintenant 3 mois, et cette réforme va également toucher encore plus, enfin, va nous toucher, nous, en tant que femmes, en fait. J'expliquerai pas ici pourquoi, mais du coup, l'idée, c'est de faire le lien avec la mobilisation contre la réforme des retraites et, en fait, les droits des femmes. Et en fait, on arrivera à, il me semble, à Félix Poula ou à Victor Hugo. Et l'idée, ce serait de faire un rassemblement et une flash mob, en fait, sur Le violeur, c'est toi. Donc, c'est une chorégraphie qui a été reprise dans plusieurs pays et qui vient, il me semble, d'Amérique du Sud. Et en fait, c'est un chant que beaucoup de féministes ont repris, une chorégraphie que beaucoup de féministes ont repris pour expliquer, en fait, expliquer ou démontrer, c'est de l'occupation de l'espace public, en fait. Montrer que en fait les violences sexuelles arrivent encore trop souvent. On a vu ce week-end avec la remise d'un César à Polanski. Et pour ce qui est du campus, il y aura un rendez-vous effectivement à midi lundi, donc c'est en même temps que l'atelier. Et du coup, l'idée, ce serait, je pense, j'espère, surtout rejoindre l'atelier, parce que ne pas créer une contradiction entre deux choses féministes. Donc rejoindre l'atelier à midi. Et ensuite, tous et toutes, aller déambuler sur le campus pour dénoncer, en fait, du harcèlement sexuel qui est encore trop présent, en fait, dans nos UFR. Cette année, on nous a encore reporté des cas de harcèlement, notamment à Stendhal, en fait. Et c'est des choses qui ne devraient pas exister, que ce soit entre étudiants et étudiantes, parce qu'en fait, c'est une réalité, ou entre, et ça, c'est quelque chose qui est trop passé sous silence, entre enseignants et étudiants, en fait, et étudiantes, notamment. Et donc du coup, pour dénoncer ça, il y a des revendications spécifiques, je les énoncerai pas ici, mais sur la création, en fait, d'une cellule pour lutter contre le harcèlement, plus indépendante de la fac, parce que sinon, en fait, on est pieds et poings liés. Et aussi, par exemple, sur la question du genre, en fait, aujourd'hui, sur le campus, le centre de santé n'est pas encore assez formé sur ces questions-là. Donc, en fait, quand on va se renseigner auprès du centre de santé et on se retrouve face à des infirmières ou des médecins, et ce n'est pas forcément de leur faute, en fait, mais juste qu'ils n'ont pas de formation sur les questions du genre. Et donc, quand tu es en train de penser, réfléchir à une transition ou même que tu te poses juste des questions, bah, c'est des violences, en fait, de se confronter à ces personnes-là. Et aussi, il me semble, sur le respect du nom d'usage, en fait, qui n'est pas encore... suffisamment respecté dans le campus. Le nom d'usage, c'est quand une personne commence une transition ou se considère et se dit non-binaire et souhaite changer de prénom. Alors j'espère que je me trompe pas en parlant de ça parce que je suis pas du tout concernée, mais et souhaite changer de prénom parce que se sent pas dans le prénom et le nom qui lui a été assigné à sa naissance. En fait, la moindre des choses, c'est de la part des enseignants et des enseignantes qui encadrent cet étudiant ou étudiante de respecter en fait ce nom d'usage, en fait ce nom que cette personne choisit de se donner. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore respecté. Et à mon sens, c'est quelque chose de pas très difficile à mettre en place et qui devrait être mis en place partout. Donc c'est pour ça qu'on a ces revendications qui sont propres au campus et qui vont être portées lundi. Donc du coup, lundi dans l'après-midi, en fait, rendez-vous à partir de midi. Mais à partir de midi, 14h, ça se fera sur le terrain. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci à tous et à toutes d'avoir été là ce soir et de nous avoir écoutés. On va se quitter sur une pause musicale, donc on va écouter Troisième Sexe du groupe Indochine qui est paru en 1985 et dont les paroles font toujours écho à l'actualité et qui peut se voir un peu comme un hymne à la tolérance sexuelle. Voilà.
Yeah.